Bienvenue dans Principes fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés, des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 49 de Principes fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur des concepts gagnant-gagnant, mais aujourd'hui je crois que c'est le cas. Mon invité est psychologue du travail. Elle est venue me parler de marche psychothérapeutique, une activité qu'elle pratique avec ses patients. Nous discutons des avantages de cette pratique et de ses limites. Dans cet épisode, nous échangeons également sur la thérapie EMDR, les séances de groupe en entreprise et les bienfaits sur le corps et l'esprit de la marche et de l'exercice physique en général. C'est parti pour ma discussion avec Fanny Salom.
Psychologue du travail et que la marche psychothérapeutique, c'est une autre façon pour moi de concevoir la consultation, les séances en cabinet. C'est venu de ma pratique perso et du coup, je me suis dit pourquoi pas trouver une alternative aux consultations en cabinet et proposer aux patients d'aller faire les consultations en marchant.
Donc voilà. On est d'accord, l'alternative, c'est par rapport au fait de ce qu'on a tous dans la tête, le psy sur sa chaise et le patient allongé sur le divan.
Voilà, le gros stéréotype, c'est ça. Alors, il y a quand même des variantes. Moi, j'ai pas de divan dans mon cabinet.
Ok.
J'ai plutôt une petite table avec deux fauteuils, l'un en face de l'autre. Bon, ça reste assez cosy, mais ça permettait de le voir sous un autre angle, peut-être de dédramatiser un peu. Et je me suis lancée il y a un ou deux ans de ça, dans ce projet-là, avec beaucoup d'audace, mais j'en suis très, très contente.
Quand tu dis beaucoup d'audace, c'est parce que tes collègues pratiquent très rarement comme ça?
Alors, ça se fait. Je pourrais pas dire que c'est quelque chose que j'ai inventé. Ça se fait en hôpital psychiatrique. On a beaucoup d'infirmiers qui sortent avec les patients en groupe, qui les font marcher. Ça se fait dans le milieu, plutôt en institution et plutôt en collectif. Donc ça, j'en avais déjà notion, mais ça restait quand même assez éloigné de moi. C'est vraiment ma pratique personnelle qui m'a amenée à passer ce cap. Parce que voilà, les collègues psychos, on est plutôt en cabinet, on est plutôt dans un cadre assez formel, assez, assez stéréotypé, comme on disait tout à l'heure. Hein. On a le psychologue assis sur son fauteuil qui prend des notes, qui écoute, et voilà. Ça peut être un peu, ça peut dramatiser, ouais, la relation, ça peut freiner certains patients de venir dans ce cadre qui peut être finalement, alors qu'il est là pour accueillir et pour soutenir, il peut être aussi les stéréotypes qui tournent autour de ça peuvent avoir l'impression qu'on est plus malade que ce qu'on est, et le fait de sortir à l'extérieur, de partir en marche dans un environnement le plus naturel possible, j'évite le centre-ville. La ville, hein. J'essaye vraiment d'être dans un cadre, dans la forêt, dans la campagne, ça enlève beaucoup de barrières.
D'accord, et du coup tu donnes rendez-vous à tes patients dans un parc ou dans une forêt, ou est-ce que vous vous retrouvez quand même au cabinet puis vous partez de là, comment ça se passe?
Alors, moi je suis rouennaise, enfin je suis renaisonnaise, mon cabinet est plutôt situé sur Roanne, donc Roanne c'est dans la Loire, c'est vers c'est là où il y a Saint-Étienne, pas très loin, pour repérer un petit peu. Le cabinet donc est à Roanne. La campagne, moi je suis sur la côte rouennaise, Renaison c'est sur la côte rouennaise, c'est là où on a accès à un environnement sympa en termes de nature, c'est un petit peu vallonné, il y a de la forêt, enfin c'est sympa. Donc je donne rendez-vous en fait pas très loin de chez moi, sur un parking où déjà ils peuvent se garer sans se prendre la tête, où c'est facilement, on peut facilement se retrouver, et puis être aussi, c'est assez isolé du centre de Renaison, donc ça permet de pas non plus croiser d'éventuelles personnes qu'on pourrait connaître, que moi je pourrais connaître. Voilà, il y a aussi cette notion un peu de discrétion à avoir, parce que moi on sait qu'à Renaison, je suis pas une star, mais bon, on peut se dire, oui, elle est psychologue, elle est avec quelqu'un, lui il consulte, enfin voilà, il faut faire attention un petit peu à ça, il faut être vigilant. Mais du coup, voilà, je donne rendez-vous sur le parking. En général, il n'y a personne. Et on part, on a direct accès à des chemins. Donc, j'ai des parcours plats, j'ai des parcours un peu plus avec du dénivelé. J'ai du parcours chemin de campagne classique, j'ai du parcours route, j'ai du parcours forêt. j'ai en tête tous les possibles parcours sur une heure et demie. Donc, voilà.
D'accord, ouais, parce que bah, ça, c'est une question que j'avais pour toi. La durée d'une séance standard, tu me parles là d'une heure et demie, c'est assez standard ou est-ce que tu fais évoluer ça en fonction de ce contexte qui est un peu particulier où tu peux pas dire si t'as pas fini la balade, tu peux pas dire allez, au revoir, vous vous débrouillez pour rentrer chez vous, quoi.
Bah, moi, on se donne rendez-vous au parking, donc moi, je me gare à côté d'eux, en fait. Donc, on part ensemble, on revient ensemble. Je pratique suffisamment au niveau personnel la marche et puis aussi sur, parce que j'habite à Renaison, donc je connais bien les chemins. Je sais qu'on, voilà, en moyenne, on marche à 4 km/h. Je sais qu'on va faire 4 km sur une heure. Et donc, j'ai en tête les parcours qui correspondent à peu près. Mais bien sûr qu'on n'est pas à 5 minutes, à 10 minutes, parce que sur le parcours, on va s'arrêter, on va avoir une vue, on va avoir un animal, on va profiter, quoi. Parce que sinon, c'est dommage de marcher tête baissée. Mais voilà, c'est pas que l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à ce qui nous entoure. Et du coup, on est gâtés dans le coin.
Ouais. D'accord. C'est une pratique qui est un petit peu saisonnière, j'imagine. Il y a une des périodes où c'est plus compliqué de le faire. Ou est-ce que les gens se disent et toi en premier, est-ce que vous dites ah ouais, bon, ben, c'est pas grave, hein, je vais être un peu mouillé à la fin de ma balade parce qu'il pleut, mais comment ça se passe par rapport à ça?
Alors, déjà, avant, en général, j'attaque jamais les premières séances en marche. C'est-à-dire que la personne est déjà venue au cabinet. On s'est déjà rencontrés, on a fait connaissance et elle a vu et je lui ai présenté que c'était possible de se voir en marchant, de faire la même chose en marchant. Donc je la préviens aussi que si la météo elle est vraiment trop trop atroce, il y a beaucoup trop de vent, beaucoup trop de pluie ou de l'orage, et en dernière minute on se le dira et on repensera différemment, on ira au cabinet, voilà. Mais en fait ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Alors j'ai une bonne étoile, mais depuis un an et demi que je le fais, il a eu fait du vent, il a eu fait froid, il a eu plu pendant le, alors au départ un peu de bruine, pendant la marche, de la pluie, etc. Mais avec un bon équipement et beaucoup de la motivation, de la détermination, enfin je veux dire voilà. On sait que si on va marcher, on se soumet à des risques climatiques, plus ou moins importants. Et en fait, ça ne nous empêche pas de... Ça ne nous a jamais empêché d'y aller. Enfin, moi, ce n'est pas un frein. Moi, ce n'est pas parce qu'il pleut ou qu'il fait froid que... Et les patients aussi, du coup.
D'accord. Tes patients, ils sont convaincus rapidement par cette proposition ou est-ce qu'ils sont plus ou moins réticents? Est-ce que tu proposes ça à quasiment tout le monde? Alors, j'imagine qu'une personne qui a des difficultés à se mouvoir, peut-être que tu t'adapteras aussi par rapport à ça. Mais voilà, comment ça se passe par rapport à eux? Quel est leur retour quand tu leur proposes ça au début?
C'est factuel, ils veulent plus revenir au cabinet. ils reviennent plus au cabinet. Mais ils reviennent plus au cabinet. Par contre, je fais aussi ce qu'on appelle la thérapie EMDR. EMDR, c'est une thérapie qui permet de prendre en charge tout ce qui est psychotraumatique. Ça, en marchant, c'est compliqué.
Donc... Ouais, alors peut-être que tu peux réexpliquer un petit peu ce qu'on a déjà un peu parlé nous en off, mais tu peux réexpliquer ce que c'est pour que les gens comprennent pourquoi c'est compliqué en marchant.
Ouais, et je pense que, alors tu vois, en rebondissant, je vais l'expliquer, mais je pense que ça pourrait presque se faire en marchant aussi, mais bon.
Ah ouais.
La thérapie EMDR, c'est une thérapie où on va utiliser des stimulations oculaires alternatives, où ça peut être kinesthésique ou ça peut être auditive. Moi, je stimule le patient sur l'un de ses sens de manière alternative et je vais accéder à une partie, en faisant ça, je vais stimuler une partie de son cerveau, on appelle ça le cerveau limbique, c'est le siège des souvenirs et des émotions. des émotions fortes, négatives. C'est là un petit peu où sont bloqués tout ce qu'on a vécu de violent, de difficile. Voilà, ça reste bloqué et ça fait que, qu'en restant bloqué, on n'arrive plus à vivre une vie normale. On a des comportements d'évitement, on a des flashbacks, on a des cauchemars. On appelle ça, donc c'est le trauma. C'est comme ça que le trauma se forme et c'est les répercussions qu'il a sur la vie d'aujourd'hui. Voilà, on évite certains endroits, on fait des crises d'angoisse face à certaines situations. Et donc moi, en stimulant cette zone et avec un protocole adapté, je vais arriver à traiter le trauma. Ça pourrait se faire à l'extérieur, par exemple en marchant, que la personne balaye son regard à gauche et à droite.
Ok.
Mais disons que pour la petite histoire, je vais remonter un peu plus loin. L'EMDR, ça vient d'une scientifique qui s'appelle Francine Shapiro et qui, justement, en marchant et en balayant son regard à gauche et à droite, a découvert qu'elle arrivait à soigner elle-même, enfin, à apaiser ses émotions face à son trauma personnel. Donc, pour la petite histoire, c'est intéressant de parler de ça, mais bon, j'aurais pas la prétention de le mettre en pratique en marchant quand même.
Ouais. C'est pas... ouais, donc, ce que tu dis, c'est que ça a quand même été découvert dans le contexte où tu te dis, ouais, peut-être que je pourrais le faire. Dans ce même contexte.
Pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, ouais.
Ok, d'accord. J'imagine qu'il y a un rythme par rapport à cette technique. Il y a un rythme à adopter où tu balayes.
Oui.
Et c'est toi, en tant que thérapeute, qui contrôle ce rythme ou ça peut facilement être le patient?
Alors, on a une base. On doit faire des allers-retours. On doit faire à peu près 20 à 25 allers-retours. Plus on va rapidement, plus on a un effet stimulant et rapide et efficace. Okay. Néanmoins, on fait appel aux ressources du patient qui n'est pas forcément en pleine possession de ses moyens parce qu'on vient... On vient s'attaquer à l'émotionnel difficile. Donc, il faut que le patient arrive à suivre le regard, à suivre mes doigts avec son regard. Ça peut être fatigant. Mais quand je vois qu'un patient suit bien, je n'hésite pas à y aller. Si je vois qu'il y a une émotion qui arrive, parce que bah, c'est souvent le cas, il y a des larmes qui coulent, on sent que la personne, son non-verbal s'active, je vais un peu ralentir, mais je ne vais pas arrêter. Je vais un petit peu la laisser et puis si je vois qu'elle reprend, je vais réaccélérer.
D'accord, jusqu'à ces 25-30
à peu près, je les compte pas, mais ouais.
Ouais, mais c'est l'ordre de
grandeur.
C'est
la base, ouais.
Ok, et tu fais plusieurs séries par séance? Ou oui. C'est une fois 25-30?
Non, c'est plusieurs séries. En fait, on part toujours d'un souvenir avec une image du souvenir traumatique. On balaye, on dit qu'on balaye, on efface, on gomme, je sais pas comme tu veux. Et entre chaque stimulation comme ça, on discute un petit peu, j'essaye de voir si l'émotion est toujours prégnante ou si elle s'est un petit peu elle a un petit peu diminué, tant qu'il y en a encore en fait de l'émotion du négatif, je continue. Mmh. Et ça peut être 2, 3, 4 stimulations comme ça. Enfin, 4 séries de stimulations. Jusqu'à ce que ça...
Par séance.
Voilà. Jusqu'à ce qu'on revienne au souvenir initial et à l'image initiale et que la personne me dise, ça me fait plus rien. Je le vois, mais ça me fait plus rien.
Ah ouais. Bon, passionnant. Et donc ce que tu disais, c'est que ça fait partie des techniques que tu emploies qui, pour le moment, ne sont pas encore passés à une séance nature, à une séance marche.
Non. Ça sera compliqué, ça. Enfin, je pense que ça pourrait se faire, mais bon, enfin, je pense que ça doit... J'ai pas de protocole sur ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas à ma connaissance.
Et dans tes balades, dans tes marches avec tes patients, du coup, j'imagine, tu m'as dit tout à l'heure, on s'arrête pour profiter d'une vue, par exemple. Est-ce que ça serait envisageable de s'arrêter 4 fois dans la balade et pour faire quatre balayages, quatre séries de ces allers-retours?
Je sais pas trop quoi répondre. Tu me pièges un peu. J'arrive pas à le concevoir trop comme ça. Je pense que ça serait un mélange des genres et On vient puiser quand même dans la en marchant, on puise un peu quand même dans les ressources de la personne déjà. Le MDR, c'est aussi assez fatigant. J'aurais un sentiment un peu de... je pense que le patient serait quand même éreinté. Par contre, il y a une autre... on applique cette stimulation alternée à d'autres fins, à des fins, on va dire, de gestion des émotions aussi, tout simplement. Par exemple, on utilise pour ce qu'on appelle le câlin papillon. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Non, ça ne me dit rien du tout. Je connais l'effet papillon, mais pas le câlin papillon.
C'est une auto-étreinte qu'on utilise en gestion des émotions et qui se base un petit peu sur la technique EMDR au niveau des stimulations alternées. Donc, en fait, tu croises comme ça, comme un papillon. C'est une auto-étreinte. Oui. Hein. Et en fait, tu vas faire tapoter à gauche et à droite. On va reprendre le même système que le EMDR en venant stimuler les deux hémisphères du cerveau et cette zone au milieu, ce siège des émotions. Et on va s'amener quelque part du positif en fermant les yeux, en partant dans un souvenir qu'on a vécu qui était très positif, ou même dans l'imaginaire, en s'imaginant un endroit serein où on se sent en sécurité, etc. Et donc on fait ça une à deux minutes. Donc en forêt, par exemple, ou dans une balade, à la rigueur, je verrais mieux m'arrêter face à une vue, comme tu une jolie vue, et proposer aux patients, là je vous propose de vous mettre en câlin papillon et d'observer la vue pour potentialiser un petit peu l'effet, le bien-être que ça procure.
D'accord. Ouais. Donc il y a ce point commun de cette alternance de côté, mais effectivement dans un but un peu différent.
Plus de relaxation.
D'accord. C'est très intéressant, ça me donne envie d'aller faire un tour là. Vers chez toi.
C'est sympa, tu viendras alors.
ouais, mais c'est promis. Tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé à mettre en place ça suite à des choses que tu avais testées toi-même, en fait, c'est ça?
Oui. Alors, je me suis rendu compte, les livres le disent, il y a beaucoup de professionnels de santé qui le disent, et moi je m'en suis rendu compte par même que en ayant une activité physique, voire sportive, la course à pied et la marche, je me suis rendu compte que ça stimulait un petit peu ma pensée et ma résolution de problèmes. Et d'ailleurs, c'est en marchant que... C'est en courant que j'ai pensé à cette idée. Allez, je me suis dit, mais allez, ça semble évident, il faut que tu le fasses, propose-le. T'as rien à perdre. On te dit non, c'est pas grave. Et si, c'est tout bénef, quoi. Et c'est en courant que ça m'est venu, comme plein d'autres idées qui s'en sont suivies, en fait.
Ouais.
Donc,
Donc tu as remarqué déjà, mais tu l'avais peut-être déjà fait depuis un petit moment, que quand tu avais. Quand tu faisais un exercice physique, alors plus ou moins intense, tu me diras à quel point l'intensité de l'exercice physique joue sur ta capacité à imaginer, à inventer des choses. Mais c'est dans ces contextes-là que tu es la plus créative et tu t'es dit que peut-être par rapport à des thérapies, à des psychothérapies, ça pouvait aussi, si tu avais ce côté créatif qui se développait dans ces moments-là, tu t'es dit peut-être que mes patients pourraient être... plus réceptif ou avancer plus efficacement sur par rapport à leur thérapie. En gros, c'est ça?
Voilà, il y a des fondements qui sont là pour le coup assez scientifiques où on sait que plus on va avoir une activité physique intense où on va stimuler un peu le cardio, plus on va avoir un effet bénéfique justement sur nos fonctions cognitives et on va stimuler davantage notre pensée, notre résolution de problèmes, etc. Donc oui, je pars du postulat que si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde et voilà. Donc, je fais vraiment le distinguo. Il y a marche lente et marche rapide. Et je crois qu'on n'a pas les mêmes effets, en fait, au niveau cognitif.
Ouais.
Bah, même au niveau physique, au niveau... Enfin, voilà. C'est bien de marcher. Et c'est encore mieux quand on a un rythme soutenu, je crois.
OK.
Vraiment.
Tu peux décrire à quoi ça ressemble une marche lente et à quoi ça ressemble une marche rapide? Parce que tu vois, moi, quand tu dis ça, moi, je me demande si je ne suis pas toujours dans un des deux modes et lequel des deux c'est.
La marche rapide, c'est clairement si tu as une montre ou si tu as un équipement, c'est de voir un petit peu à combien tu stimules ton cardio, quoi. Plus tu vas stimuler ton cardio, plus tu vas... Voilà. L'idée, c'est d'être dans un équilibre, ne pas être trop pris par ces manifestations physiques, d'essoufflement, de tension musculaire, etc., pour pouvoir quand même avoir la ressource pour penser, c'est trouver cette et pas être complètement dans une marche hyper lente qui va être positive en soi parce qu'elle va amener un changement d'environnement, un divertissement, etc., mais va pas forcément avoir le même effet, va pas produire autant d'endorphines en fait qu'une marche un peu plus rapide et qui va relancer un peu le cerveau quoi en fait au niveau cognitif aussi.
Ouais, donc ta façon de décrire marche lente et marche rapide, c'est plus lié par exemple au rythme cardiaque ou aux sensations qu'a la personne qu'à une vitesse, typiquement?
Bah oui.
Ok.
Alors il y a une moyenne de 4 km/h pour la marche, mais tout est relatif, c'est propre à chacun. C'est propre aux ressources de chacun, physique en fait, hein. On va pas être égaux face à ça. Il y en a qui vont pouvoir obtenir un bon, enfin, qui vont avoir un cardio hyper élevé ou là où moi je l'aurais pas et vice versa. Et donc voilà, c'est vraiment être à l'écoute de soi, quoi. Donc tout est réuni en fait dans cette aller marcher seul ou aller marcher en consultation. Enfin, je veux dire, tout est réuni pour se retrouver et pour stimuler sa pensée, etc. Seul est mieux qu'être. Alors, en thérapie, c'est différent. Seul, c'est très bien. Marcher en groupe, là, on va dynamiser les interactions, mais on va pas forcément. Ben, du coup, on va pas se retrouver seul, donc on va pas se dynamiser soi-même, forcément.
Ouais. Tu penses que dans l'idéal, il faut faire un petit peu des deux, alors voire des trois si tu suis une thérapie comme ce que tu proposes, mais marcher en groupe de temps en temps, marcher seul de temps en temps pour obtenir différents bénéfices?
Bah oui, c'est ce qu'on disait. C'est bien que tu le soulignes. Voilà, il y a l'idée de marcher en groupe où, alors il y a la famille, il y a les amis, il y a plusieurs types finalement de marcher en groupe. Dans la famille, on va peut-être on va générer un moment ensemble. On va pouvoir resserrer encore les liens, etc. Avec des amis, on va pouvoir on va pouvoir avoir des échanges, des discussions collectives. On va aussi faire du lien social. Seul, on va être avec nous-mêmes, donc on va approfondir soi-même ce qui se passe dans notre esprit. On va être face à soi-même, clairement. Nos problèmes vont arriver très très en face de nous, et on va être dans la résolution de problèmes, quoi. Et
Ouais.
ça se conscientise pas forcément aussi. Ça, c'est ça qui est. Moi, je me suis rendu compte au bout de plusieurs marches, au bout de plusieurs sorties, que en revenant, j'avais trouvé une résolution d'un problème. Mais quand j'y étais, je le vivais sans forcément le conscientiser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'en allant marcher après, ils rentrent. Et je pense qu'ils se rendent pas compte que finalement, ils ont trouvé plein de réponses. Ils ont pas forcément associé la marche à ça.
Ouais.
Tu vois?
Ouais. Donc, il y a plusieurs aspects dans ce que tu décris, dans ce type de marche. Il y a effectivement l'exercice physique, l'effort physique, qui peut-être permet d'amener, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais permet peut-être d'amener plus de sang au cerveau ou des choses comme ça,
Oui,
des effets
c'est.
vraiment physiologiques. Et après, tu as par exemple, le côté nature. À quel point est-ce que d'être dans la nature, à quel point est-ce que d'être au milieu d'arbres, entendre des petits oiseaux, respirer l'air pur, à quel point est-ce que c'est aussi un facteur? Et donc, pour tester, on pourrait se dire, bah, je vais marcher sur un tapis roulant, dans une salle de sport. Est-ce que j'ai déjà certains des bénéfices ou est-ce que c'est assez limité?
Oui, il y aura les bénéfices liés à l'activité physique, au cardio, etc. Mais quand on marche sur un tapis, donc il y a tapis et tapis, il y a tapis à la maison, il y a tapis en salle de sport. Tapis en salle de sport, je dirais qu'il y a quand même pas mal de paramètres, c'est selon moi, hein, qui sont peut-être perturbants, plus perturbants que tapis à la maison. Tapis à la maison, c'est risqué d'avoir un téléphone qui sonne, c'est risqué d'avoir un écran, c'est risqué d'avoir de la musique. Je dirais que la marche à l'extérieur, dans un environnement, donc en dehors de la ville, c'est s'ancrer dans quelque chose de plus sain, de retour avec nous-mêmes, quoi. En fait, je pense que c'est coupé d'aussi avec le. Sortir marcher, c'est bien sans le portable aussi, ouais. C'est coupé avec le numérique, en fait, avec le quotidien, et s'ancrer dans quelque chose de plus sain, retourner aux bases.
Eh ouais. Bon, dédicace à Lorraine hein, de l'épisode 47 qui m'a parlé d'hyperconnexion, d'aliénation numérique. Je vois que tu es assez aligné avec ça sur au moins de temps en temps, tu vois, le fait de sortir sans le téléphone et juste avec soi-même. Donc voilà, il y a des choses qui reviennent dans Principes fondamentaux, je trouve ça cool parce que bah, voilà, ça semble être un principe fondamental du bien-être à notre époque. Là, on est encore début 2024. Le fait de se déconnecter, le fait de se retrouver avec soi-même, ça semble être quelque chose d'assez important qui revient par différentes personnes qui ont différents backgrounds. Donc, je trouve ça très intéressant que tu le soulignes à nouveau. Ça te semble une évidence pour toi?
Oui, après on peut pas vivre en dehors de son temps, je pense c'est compliqué, on est vite rattrapé. Mais au moins avoir des petits moments comme ça, à titre perso, là je parle, hein. Deux fois par semaine, on s'échappe deux fois 1 heure par semaine, deux fois 1 heure et demie par semaine, si on a le temps, etc. Bah, c'est bien de se les créer ces espaces parce qu'ils sont hyper ressourçants. Tout ce qui était problème avant de partir n'est que résolution en revenant. Enfin, je caricature un peu, mais franchement, moi, je le ressens vraiment personnellement, donc j'en suis convaincue.
Ouais. Quand tu discutes de ce sujet avec des collègues, on va dire psychologues, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que tu es très est-ce que tu sors du lot? Est-ce que tu es très à part dans cet intérêt pour le côté sortie, marche, exercice physique, nature? Ou est-ce que les autres se disent peut-être ah oui bah moi ça me dirait bien mais c'est compliqué, je suis pas au bon endroit, je suis loin de la nature? Ou est-ce que ces personnes se disent non, moi je suis bien dans mon fauteuil, mes patients ils sont bien dans leur divan ou dans leur fauteuil aussi. Qu'est-ce qui semble ressortir?
Ben, ça me fait écho à une discussion récente que j'ai eue, mais avec. Alors voilà, on en avait déjà parlé, Alexandre, mais il y a, comme dans tous les corps de métier, il y a différentes spécialités, il y a aussi différentes cultures travail, un petit peu, même entre nous tous psychologues. Il y a des psychologues cliniciens qui ont des spécialités liées aux enfants, liées aux personnes âgées, liées aux adultes qui ont un handicap. Il y a les psychologues du travail, dont moi je fais partie. On est tous un petit peu différents quand même, hein. On a tous notre coloration. Il y a quand même une, je dirais quand même qu'il y a une plus forte scission peut-être entre les psychos du travail finalement, qui sommes plus amenés à recevoir, bon, moi j'appelle des patients, mais des salariés, des agents, et les psychocliniciens, des patients, même si je défends le fait qu'on fait la clinique du travail, hein. La clinique, c'est l'observation de symptômes. Voilà. Nous aussi, on le fait dans le travail puisque toute souffrance induit des manifestations physiques, psychiques, comportementales dans toutes les disciplines. Donc, on est quelque part aussi des cliniciens. Mais oui, il y a quand même une petite fracture entre la psychologie du travail et la psychologie clinique. Et j'ai évoqué avec ma collègue psycho du travail que j'ai vue il y a 2 semaines que je faisais des consultations en marchant. Et du coup, elle était super contente, à l'aise avec cette idée-là. Et elle me disait, mais moi aussi, je vais essayer de le faire. C'est trop bien, etc. Du coup, on ne peut pas prendre de notes pendant nos consultations. Tout se passe dans la relation, dans l'instantané. On vient vraiment casser un peu les codes du psychologue avec le divan, les lunettes, les notes qui écoutent, etc. Puisque dans la marche, on est dans quelque chose de plus interactif, de plus dans l'action. On vient un petit peu casser ces vieux codes du psychologue. Ouais. Alors.
Ouais. Et du coup, attends, je te coupe par rapport à ça. Tu dis on prend pas de notes. Est-ce que ça veut dire que tu fais plus travailler ta mémoire et donc c'est un bénéfice pour toi aussi? Comment ça se passe? Parce qu'il y a un suivi. Dis-moi, en moyenne, tes patients, tu les vois combien de fois? Alors il y a peut-être une très grande variance, mais si tu devais me donner une moyenne, c'est tu les vois 2 fois, tu les vois 5 fois, tu les vois 10 fois, tu les vois 30 fois?
Non, 4-5 fois.
4, 5 fois, ok. T'arrives assez bien à te rappeler. De ce qui s'est passé la fois d'avant. Comment ça, voilà, d'un point de vue pratique, comment ça se passe, le fait que tu ne puisses pas prendre de notes, comment est-ce que tu t'adaptes à ça?
Alors, on n'est pas tous, même nous les psychologues, hein, on n'est pas tous au taquet toute la journée. Donc il y a des fois on a des coups de
Ah
mou, on a
bon?
des coups de fatigue, on a des problèmes perso aussi des fois. Enfin, on reste nous
Vous
aussi
êtes des humains?
des humains. Du coup, je suis pas au taquet de mes ressources à chaque fois, donc j'aime bien prendre des notes quand je suis au cabinet parce que ça me fait un filet. Ça me fait un filet. Et dans ma discipline en psycho du travail, on a souvent besoin quand même de... Il y a des dates, il y a des noms de personnes, il y a des choses que même avec un effort de concentration, il faut quand même mieux que je prenne des notes parce que voilà, il y a des dates clés voilà, que je dois noter. Donc voilà, et qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais en marchant comment je fais du coup?
Et ouais, c'est ça. Est-ce que peut-être que ta mémoire travaille mieux aussi et que naturellement tu attrapes les choses? Peut-être que tu prends des notes après quand tu retournes à ta voiture. Enfin, je sais pas, je suis curieux, tu vois, de savoir comment tu t'adaptes à cette différence en fait.
Et ben bon, ce que je me rends compte, c'est que même si je prends des notes au cabinet ou en consultation en marchant, vu que je suis dans une discussion, que je suis dans l'empathie, j'ai un effort de concentration et d'attention qui m'assure quand même une bonne mémorisation. Voilà. Voilà. Et donc je me rappelle assez facilement quand je vois arriver la personne. J'ai en gros l'idée. Et puis, de toute façon, on commence toujours une séance quand j'ai les notes, je reprends les notes de la dernière fois. Ou quand j'ai pas les notes, la phrase standard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Comment vous vous sentez? Et là, la personne va donner un certain nombre d'éléments qui vont me permettre, moi, de raccrocher tout de suite. Et je vais retirer la pelote et je vais tout redérouler et ça va être parti. Et ça va tout revenir.
Est-ce qu'au moment où ça revient, est-ce que tu revois pas, si la séance précédente c'était en balade, est-ce que tu te revois pas à l'endroit où la personne t'a dit tel truc?
Ça peut arriver.
Je te demande ça parce que moi, des fois, il se passe ça. Des fois, j'ai des souvenirs très vivaces. Je pense pas que ça se dise, mais bon, enfin, très clair. et parce que je les associe, tu vois, des phrases ou des contextes, ou je les associe à un sens. Donc là, je parle de la vue, mais ça peut être autre chose. Et voilà, je me disais peut-être que le fait que toi, tu vois tes patients dans un cadre différent et en te déplaçant en plus. Parce que quand tu es toujours dans le cabinet, tu es toujours à la même place, ça peut pas être une aide. Parce que les patients s'enchaînent, alors tu les vois, ils sont différents. Mais tu as toujours la même vision, tu as toujours à peu près les mêmes sons, alors la voix du patient diffère, etc. Mais quand tu es en balade, entre le début et la fin de la marche que tu fais avec ton patient, tu es dans un cadre différent, peut-être que tu n'as pas la même vue, peut-être que tu n'as pas les mêmes bruits, parce que peut-être au début tu es plus près de la route, etc. Et du coup, je me disais, peut-être qu'effectivement, le fait d'être en marche, non seulement tu actives plus, tu fais plus d'efforts, etc. Donc peut-être que tu es plus alerte encore, mais en plus tu as cet environnement qui change au fur et à mesure. Et je me disais que c'était peut-être une aide pour la mémoire.
Alors ce que tu dis là, ça s'appelle la réminiscence.
Ok.
C'est l'association d'une émotion à un sens, que ce soit visuel, auditif, gustatif. Madeleine de Proust, pour rappel.
Ouais, voilà, c'est ce à quoi je pensais. Ouais.
Et donc, alors oui, ça peut m'arriver. Si ça déclenche en moi une émotion, quand même, une voiture nous passe devant, hop, j'ai eu peur, et tiens, elle était en train de me dire ça. Ou alors, elle m'a dit quelque chose qui m'a, touchée, beaucoup touchée, parce que, on part sur le postulat que j'ai quand même de l'empathie en étant psychologue, il y a des choses qui me touchent et puis qui peuvent me ramener à des choses perso, etc. Voilà. Et j'ai fait un lien avec moi, j'ai fait un lien avec mon vécu, ça me touche plus. Donc oui, si ça me touche, j'ai plus de chance d'avoir le... Mais j'aurais envie de te dire, en cabinet, c'est aussi pareil. Ce qui pourrait ramener ma mémoire en marche, c'est le fait de vivre une émotion forte en lien avec le contexte dans lequel on est. Alors oui, comme tu dis, peut-être on voit un cerf qui déboule devant nous, on est grand, et puis on était en train de parler de ça.
Ouais. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Par rapport aux exemples que tu viens de donner, est-ce qu'au fur et à mesure, on se désensibilise en quelque sorte quand on fait un métier comme le tien, qu'on est au contact de personnes qui nous racontent souvent leurs souffrances, enfin souvent des choses comme ça. À quel point est-ce qu'on prend du recul au fur et à mesure sur ses propres émotions, sur ses propres difficultés quand on est psychologue. Donc là, c'est indépendant de la marche, etc. Ouais. Mais c'est une question que je me posais, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire.
Quand on est psycho, c'est bien d'avoir fait un travail psychothérapeutique sur soi-même pour oui. se connaître, pour voir un petit peu, pour éviter nos propres biais vis-à-vis des prises en charge qu'on a. Si je suis une enfant, non, si je suis une, si j'ai été, disons, voilà. Trompée par mon mari, etc., que j'ai une haine des hommes, etc., et que je sois une patiente qui me dit « Ah ben voilà, j'ai été trompée par mon mari. » Alors, le risque, ce serait que je dise « Mais c'est vraiment qu'un salaud, tu vois, que je prenne parti, en fait, alors que, selon le code d'odontologie, on doit être neutre, hein. Mais on est tous humains, et on a tous des biais plus ou moins conscients, et donc le travail d'analyse perso, il doit nous permettre de mettre au clair ça. » Et donc, c'est un travail qu'on peut faire tout au long de notre carrière, quelque part. Hein, voilà. Donc, il y a ça. Et ta question, c'était quoi ta question initiale?
Non, est-ce qu'on se désensibilise au fur et à mesure? Et en fait, ce qui se cache derrière, et ça, c'est un truc qui revient tout le temps dans Principes fondamentaux, à quel point est-ce qu'on arrive à être objectif par rapport à une personne lambda? Est-ce qu'un psy a le même degré de subjectivité, est-ce qu'il est 10% plus objectif, est-ce qu'il est 90% plus objectif, tu vois, c'est un truc que je me demande. Et justement, tu parlais des biais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on arrive à mieux se séparer de ces biais quand on est psy, grâce au travail qu'on fait sur soi, comme tu viens de le décrire, et grâce à ce qu'on observe chez les autres au quotidien?
Donc, je pense que travailler sur soi, ça vient dans ce sens-là un petit peu limiter les biais. Je pense qu'avec l'expérience et le temps aussi, il y a un côté... l'empathie évolue. J'ai pas envie de dire qu'elle diminue, j'ai envie de dire qu'elle évolue. Je vais forcément être un peu moins sensible à ce que je vais entendre, et j'ai envie de dire suffisamment avoir d'empathie pour pouvoir comprendre, et pas trop de sensibilité, d'être vraiment touchée intérieurement pour pouvoir bien l'accompagner aussi. Parce que si moi je suis pas bien et qu'elle est pas bien, ça va pas faire un bon mélange. Mais oui, l'objectivité, Alexandre, c'est quoi l'objectivité? Ça existe pas, l'objectivité.
Alors oui, mais ça, comme la perfection ou comme la vérité, tu vois, mais on peut essayer de tendre dans cette direction-là, c'est ce que je veux dire.
On est d'accord. On essaye de tendre vers là, mais tire à voir un psycho, on est tous colorés. Je le dis un petit peu comme ça, mais on est tous forcément colorés. Et d'ailleurs, on fait que notre personnel. On a fait des études, hein, on a appris à l'école, on a un master 2 pour être psychologue. C'est un master 2 à l'université. Donc on a fait des études, on a des bases, etc. Mais il y a aussi le savoir-être. Le savoir-être, notre personnalité, c'est comment on se construit, c'est ce qu'on a vécu, etc. Et ça, ça fait qu'on est tous des psychos différents, et que certains patients, certains salariés vont avoir des accroches avec l'un et pas avec l'autre. Et on est tous différents, quelque part, on est tous humains, et on fait avec notre vécu aussi, en essayant de garder en tête la neutralité, l'impartialité, le bien-être du patient, la confidentialité des échanges. Voilà, on doit avoir toujours ces paramètres en tête, mais c'est pas toujours simple.
Ouais, non mais alors, je me doute. Quand on est de l'autre côté, quand on est patient et qu'on veut commencer à travailler avec un psychologue, comment on choisit la personne qu'on va voir? Ce que tu dis, on est tous colorés. Donc il y a ce côté, la personne, vraiment. Il y a le côté de la pratique aussi. Bon, si on a entendu dire que pas très loin de chez soi, il y avait une psy qui faisait marcher pendant les séances et que ça nous parle beaucoup. Bon, ça aide. Mais s'il n'y a pas forcément quelque chose de très très clair à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on se fait recommander une personne? Comment est-ce qu'on choisit son psy?
Comment on choisit son psy? Alors déjà, moi, quand je demande... Je demande à mes patients s'ils sont orientés de la part de quelqu'un. Oui. Et ils sont souvent... Alors moi, dans ma discipline, c'est particulier aussi. Hein. Je vais forcément... Les médecins généralistes, les médecins du travail m'orientent beaucoup de patients, parce que on est peu nombreux psychologues du travail, et on va avoir cette spécialité qui va permettre d'avoir un travail d'équipe et d'accompagner au mieux le salarié. Donc c'est par rapport à mes spécialités, il y a aussi par rapport à la technique EMDR, et puis même quand j'ai quand les patients, oui, ça se peut que certains patients viennent et se disent « Ah mais Madame Fanny Salom, ça J'aime pas comment elle fait, ça me convient pas, etc. C'est quelque chose qu'on explique aux patients, en fait. Moi, j'ai aucun intérêt à fidéliser quelqu'un. Enfin, si je veux que ça marche, il faut que la personne soit bien avec moi. Donc, l'idée, c'est de lui dire, on essaye. Moi, je suis souvent dans cette approche-là. Bah, on peut se rencontrer une première fois, on voit comment ça se passe, on essaye, et puis on verra ce qu'on fait après.
Ouais, c'est top, ça. C'est top parce que du coup, tu vois, ça fait baisser la pression de « il faut que ça marche ». Voilà, et ça revient un petit peu à ce que tu disais au début de le fait que... alors, je le dis avec mes mots, c'est pas comme ça que tu l'as dit tout à l'heure, mais le cadre va peut-être amener une certaine forme de pression ou de stress supplémentaire, le cadre du psychologue dans son cabinet... Le côté formel, ça peut peut-être un peu angoissé.
Ça peut rendre plus malade qu'on ne l'est, en fait, un peu. On a l'impression que, ah bah ça y est, je suis fou, je vais chez le psychologue.
Ouais, et donc là, ce que tu dis, c'est que en plus, en étant clair dès le début, on essaye, on fait une première séance, on voit ce que ça donne, ça enlève encore de la pression. Et moi, je trouve que c'est très, très bien, à partir du moment où on a conscience que... de travailler avec un psychologue, ça peut nous apporter du bénéfice. Le fait de diminuer la barrière à l'entrée en se disant « ouais, je suis engagé avec la personne » ou en se disant pas justement « je suis engagé avec la personne » ou en étant dans un cadre qui va peut-être nous sembler plus naturel, plus nous correspondre, ça... Voilà, ça fait tomber les barrières et je trouve ça très très intéressant.
C'est vraiment ça, c'est un leitmotiv que je me donne parce que, alors pour parler un peu de moi, bon, j'ai réussi à être dans le cadre hein, puisque finalement mes études se sont bien déroulées, j'ai obtenu les diplômes, etc. Mais j'ai toujours été un petit peu en difficulté, je dirais peut-être avec des difficultés d'attention, des difficultés de concentration, ce qui pouvait occasionner dans mes relations à mes copains ou à mes professeurs, des difficultés quoi. Je me suis toujours sentie un peu à côté de la plaque pendant mes études et finalement j'y suis arrivée, je me suis accrochée et puis plus j'ai évolué dans les études et plus j'ai trouvé des personnes qui me correspondaient. Finalement, je me suis retrouvée vraiment bien là où j'étais voilà. Et tout ça pour dire quoi? Que j'ai pas envie nourrir un stéréotype du psychologue en intellectualisant ma pratique avec des mots compliqués, des prises en charge. Enfin, j'ai envie de rendre l'humain à l'humain. C'est joli ce que je dis, mais j'ai envie de ramener de la proximité, quoi. Je pense qu'on peut faire de la psychologie en utilisant des mots simples et en faisant des choses simples.
Ouais.
Et c'est vraiment ça que je veux apporter.
Ça me parle énormément. La simplification raisonnée, la simplification qui fait sens. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, dans beaucoup de cadres, à beaucoup de gens. Voilà, et c'est pour ça aussi que moi, j'aborde mes discussions avec un regard très, très débutant, très naïf, on va dire, parce que ça me permet d'orienter la discussion vers... justement, vers des explications qui sont aussi simples que possible, parce que vu que je connais pas le sujet, vu que je comprends pas la plupart des choses qui se passent, naturellement, je vais, dès qu'il y a quelque chose d'un peu complexe ou d'un peu spécifique, je vais demander une explication, je vais demander une simplification. Tout ça pour dire que ça me parle énormément, ce que tu dis par rapport à ta pratique, et je suis content que tu viennes m'en parler, que tu prennes le temps aujourd'hui de venir m'en parler.
C'est un peu le miroir. Hein, quand j'explique que moi, je pouvais me sentir un peu en décalage, je pense que j'aurais aimé qu'on puisse avoir un peu plus de proximité, que les choses soient plus simples, plus fluides, etc. J'ai pas envie d'être un psychologue dans un moule avec un cadre où c'est à moi de m'adapter et d'apporter de la proximité, quoi.
Ouais, c'est très intéressant. Tu as dit que toi, tu étais psychologue du travail, ça représente la majorité de ton temps avec les patients.
Alors non, donc psychologue du travail oui, mais il va y avoir une partie donc avec dans les consultations individuelles avec les patients, donc au cabinet ou en marche, Et je vais avoir aussi une partie au sein d'un cabinet que j'ai fondé avec Andréina Laurent, qui est ergonome, qui est ma collègue ergonome. On a fondé un cabinet en santé au travail et ressources humaines. Et avec Andréina, on intervient dans les entreprises de la région sur trois grandes thématiques, sur la formation, sur l'accompagnement des transformations, des réorganisations dans les entreprises et sur tout ce qui est prévention de la santé au travail. Donc dans ce cadre-là, on peut mener des audits, on peut faire des formations où on peut aller amener des concepts carrément novateurs, vraiment plus préventifs, comme des... par exemple, on est dans une start-up où on intervient avec une kiné. Elle va accompagner les salariés sur le plan physique. Elle va faire des échauffements à la prise de poste, des étirements à la fin du poste. Elle va travailler les postures pour les salariés hein, qui sont dans la production, qui ont des postes physiques. Moi, je vais arriver sur le côté plus psychologique en les amenant à découvrir tout ce qui est la relaxation, la gestion des émotions, la sieste flash, un truc que j'ai mis en place, une petite micro-formation que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, comprendre les addictions, enfin tout un tas d'autres concepts. Et la marche aussi, la marche, que donc je pars marcher avec des salariés.
En groupe du coup dans ce cadre-là ou pareil, ça peut être.
On fait un groupe du coup. Bon, faut que les entreprises soient assez modernes et ouvertes à tout ça. Mais du coup, oui, on fait des sessions test hein, sur 6 mois. On prend le même groupe de salariés et je vais marcher avec eux régulièrement une fois par semaine régulièrement avec eux. C'est un petit peu un temps où on va quand même parler du travail, on va pouvoir aborder plein d'autres thématiques. Et là j'en ai une petite bonus, une séance qu'on a faite l'automne dernier où finalement on s'était rendu compte sur les précédentes marches qu'il y avait tout un tas de déchets autour de nous. Et en fait on s'est dit la semaine prochaine on prend les sacs, on prend les gants et on fait notre marche, on parle et on ramasse les déchets en même temps. Donc en fait à la fin, alors c'était un peu bizarre parce que là on va de plus en plus loin dans l'audace de, mais clairement elles étaient hyper hyper satisfaites d'elles après. Elles étaient hyper satisfaites d'elles.
D'accord. Comment change la dynamique quand t'as un psy avec une personne dans le cadre de la marche un psy avec une personne et un psy avec en groupe, il y avait combien de personnes là dans ce cadre là?
5-6
Ouais. Est-ce que les gens arrivent à s'ouvrir de la même manière? Est-ce qu'au contraire, ça d'être entouré, ça les booste encore plus? Comment ça change en fait?
C'est pas simple pour tout le monde, mais comme dans tous les groupes, il y a toujours un meneur, il y a toujours une personne un peu plus en retrait, et puis entre il y a ceux qui se raccrochent, soit au meneur, soit la personne un peu en retrait. Donc on peut avoir deux profils un peu taiseux, ou alors on a le meneur et les autres gravitent autour du meneur dans les discussions. Ça se sent tout de suite. Hein, c'est pareil dans tous les groupes, c'est tout le temps comme ça.
D'accord.
Et du coup, c'est pas évident. Donc, on peut pas tout aborder. Donc, on part sur des problématiques travail. Et moi, j'essaye de faire tourner la parole. Mais c'est aussi à moi de voir un petit peu les personnalités, de pas mettre en difficulté celles où je sens qu'elles sont plus dans l'observation et dans l'écoute. Et c'est déjà très bien parce qu'elles sont là. Elles participent. Il va pas falloir que j'aille trop les chercher. Je pourrais les mettre en difficulté. Et puis, il y a les meneurs où c'est fluide. Donc, on parle du travail, on parle des relations au travail, on parle de la formation, on parle des horaires, on parle des locaux, du matériel, on parle plein de choses. Et en fait, j'ai eu la chance d'aller, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et j'avais récupéré une balle de baseball, une balle blanche. Et en faisant ces groupes, je me suis dit, tiens, je sais pas si tu connais les photolangages, ça te parle?
Non, pas du tout.
En fait, c'est un outil qui permet à un groupe de communiquer autour de photos qui sont exposées, si tu veux. On dit une personne, prends cette photo, qu'est-ce que ça t'inspire, parle autour de ça. Et puis après, on lance des sujets comme ça.
Ok, mais alors ces photos, par exemple, c'est des photos qui n'ont rien à voir avec les gens ou c'est des photos qui sont prises eux-mêmes?
En général, tu prends des photos ou des scènes qui vont induire des émotions en lien avec le groupe, quoi.
D'accord.
Je sais pas si tu me suis, c'est un peu complexe. Et bon, moi, je me suis basée
sur... Si, ça va.
Je me suis basée sur cet outil-là, mais moi, j'ai pas pris de photos, j'ai écrit des mots clés en lien avec le travail et je les ai écrits sur ma balle de baseball.
D'accord.
Et quand on marche, eh ben, je lançais la balle et celui qui l'a récupéré, il regarde, il tombe sur un mot et il y va.
D'accord. Un mot au hasard ou il choisit son mot?
Plus ou moins.
Il fait ce qu'il veut, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Donc, ça pouvait lancer un petit peu. Et c'était pas mal apprécié, cette histoire de balle de baseball.
Ouais, ouais, je comprends.
Et la balle, ça permettait.
J'arrive à me représenter.
La balle, ça permettait de dire celui qui a la balle parle, les autres qui n'ont pas la balle ne parlent pas.
Oui, ouais, ouais. Ça, je m'en étais douté dès le début, tu vois. Dès que tu m'as parlé de la balle de baseball dans ce cadre-là. Par contre, je t'avoue que j'ai pas vu venir les mots sur la balle. ça, là c'était
l'âme.
La surprise.
Bah, c'est créatif.
Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
On peut tout faire.
Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, je pense que peut-être le message principal qui sortira de cet épisode, c'est ça. C'est le « on peut tout faire ». Alors, tout, je ne sais pas à quel point... Moi, j'aime pas trop les mots extrêmes. Les « tout », les « jamais », les « etc. Mais, » mais oui, mais je pense que c'est ça qui ressortira. C'est que oui, y a un cadre, il y a des savoirs, il y a des... Voilà. Mais après, tu testes, en fait. C'est ce que tu fais. T'as
je
testé.
Teste, je mets un accord avec moi-même, je mets de ma personne, voilà, je teste et j'ai pas envie de rester bloquée dans un cadre qui ne me convient pas et dont je ne suis pas certaine qu'il convienne à tout le monde non plus.
Bien sûr.
Bien sûr. Mais bon, faut trouver un équilibre, quoi, dans tout ça.
Tout à fait, tout à fait. Pour en revenir à ton groupe ou tes groupes, groupe de 5-6, c'est 5-6 personnes qui travaillent ensemble au quotidien ou est-ce que ça va être 5-6 personnes de la même entreprise mais justement qui sont peut-être un petit peu éloignées et pour qu'il n'y ait pas cette dynamique de groupe habituelle qui se retrouve dans ce cadre-là de cette marche
ouais. C'est carrément ça. Ça peut être les deux formats en fait. Mais là en l'occurrence, celui de la balle de baseball, c'était plusieurs services, pas des personnes qui se connaissent mais qui travaillent pas forcément directement ensemble. Et donc ce qui est après sa dynamique de groupe dans le travail, ça permet de comprendre ce que l'autre vit, de chercher des solutions d'entraide, etc., de faire de la cohésion, du lien.
Ouais, parce que tu vois, moi, je me représentais une équipe qui travaille ensemble et du coup, peut-être avec une hiérarchie aussi. Et j'imaginais à quel point ça pourrait peut-être être dur de faire sortir des choses d'un groupe comme ça avec... Il y a une rigidité qui se met en place au fur et à mesure dans un groupe. Et voilà, c'est pour ça que j'arrivais mal à me représenter. Tu me dis qu'il y a les deux, mais j'ai plus de mal à me représenter ce groupe de gens qui travaillent au quotidien ensemble, avec des gens qui s'apprécient plus ou moins, avec ces relations hiérarchiques qui font que y a des trucs qu'on ose moins dire. Enfin voilà, je me demandais ce que ça donnait dans la réalité.
En général, les responsables, on les prend pas. ça, c'est vraiment même pour les groupes de parole ou les analyses de la pratique en salle de réunion sur site, quoi. Souvent, on leur demande de pas venir, de pas participer, parce que du coup, ça libère pas la parole de tout le monde. Et figure-toi, alors, donc, il y a pas de responsable. On peut avoir des personnes d'une même équipe, mais il y aura pas de responsable. Et la marche, du coup, ça libère la parole. L'idée de la marche aussi, c'est de puiser suffisamment dans tes ressources et de te divertir suffisamment avec l'environnement pour t'éviter de mettre en place tes blocages, toutes tes barrières. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ça distrait en quelque sorte et ça permet de faire passer naturellement des choses qui, dans un contexte plus standard, resteraient bloquées.
Voilà, parce que tous les blocages qu'on se met, je parlerai pas de ça, ou ça c'est mon environnement, c'est mon perso, faut de la ressource quand même, tu vois,
pour les maintenir,
pour les maintenir.
Les blocages.
Oui. Il faut de la ressource pour les maintenir, etc. Et le fait d'aller marcher, donc on puise dans d'autres sources, d'être dans un environnement différent, donc on puise encore dans d'autres sources, parce qu'il faut contrôler quoi, hein, tout ce qu'il y a autour. Donc on puise dans d'autres sources, au bout d'un moment, ça tombe. Quoi. Ça et tombe, ouais. En individu ou en collectif.
Ah ouais. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu racontes là ?
Non.
À des illusionnistes qui attirent ton attention quelque part et pour faire passer quelque chose de l'autre côté. Donc, l'illusionniste, le but, c'est te manipuler. C'est, voilà, mais pour ton plaisir, pour ton émerveillement, pour ton... Voilà. Bah, toi, j'ai l'impression que ce que tu fais avec ça, avec la marche notamment, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, tu distrais d'un côté pour laisser passer quelque chose qui a besoin de sortir de l'autre.
Ouais. Je capitalise sur la décharge physique, enfin la fatigue physique en fait, qui va être induite par la marche, etc. Je capitalise sur ça, parce que du coup les ressources vont ailleurs, quoi. Hein. Et sur le fait qu'on soit dans un autre environnement.
Mmh. Ouais.
Donc j'accepte. C'est vraiment. Plus,
ouais, vas-y, excuse-moi.
J'accepte davantage aux personnes et puis on avance mieux, quoi. C'est le cas de dire.
D'accord. Tu m'as souvent dit elle dans l'épisode en parlant de tes patientes, tes patientes. Est-ce que c'est juste une habitude que tu as prise ou est-ce que pour une raison ou pour une autre tu vois plus de femmes que d'hommes?
Non, pourtant je vois pas mal d'hommes.
D'accord.
Et okay. j'en suis assez. Je vois vraiment beaucoup d'hommes. Je dirais presque, c'est franchement, c'est presque la moitié-moitié. Hein. Là, en l'occurrence, dans l'entreprise en question, c'était des femmes. Donc,
ouais.
Bon, il y a peut-être un sens à tirer à ça aussi. Mais bon, en marche, c'est autant d'hommes que de femmes.
Ok.
Peut-être un peu plus d'hommes. Et en cabinet, c'est kiff-kiff. Mais je pense que c'est lié aussi à la spécialité travail. Qui fait que je vois autant d'hommes que de femmes. Mais bon, je trouve que les hommes... c'est vrai que j'ai été surprise au début de ma pratique. J'ai toujours eu beaucoup... J'ai eu plus d'hommes que ce que je pensais, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui viennent consulter, quoi. Et qui apprécient carrément aussi la... Je pense qu'ils apprécient aussi ma pratique.
Ouais.
Qui est plus dans l'action, etc., spontané, dans la proximité, où je suis, voilà.
Il y a un côté, du coup, que tu as remarqué, une différence en moyenne, hein, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, évidemment, une différence homme-femme, plus avec certains, par exemple, tu disais action, peut-être que ça parlait pas mal aux hommes, émotion, discussion, parole, peut-être un peu plus aux femmes, est-ce que c'est le cas, ou est-ce que non, c'est pas, t'as pas remarqué de grosses différences, de différences marquantes, si tu veux, entre ces deux groupes de personnes?
Je dirais que les femmes sont quand même plus facilement dans la verbalisation.
Ok.
Et dans la capacité à ressentir leurs émotions. Elles y ont plus accès, ça c'est un fait. Hein.
Ouais, alors tu peux développer un petit peu ça m'intéresse. Ressentir ses émotions.
Ouais, c'est quelque chose. Je pense que c'est par rapport à nos ces stéréotypes de genre en fait. Hein. Je pense que ça date de la femme, elle protège, elle nourrit, elle aime, elle a, voilà. L'homme, il va être dans l'action, il va aller travailler, il va aller ramener à manger, il va aller. Enfin, je pense que c'est une répartition des rôles qui est là depuis très très longtemps et qu'on entretient, que la société entretient, qu'on entretient dans l'éducation de nos enfants, etc. L'homme, accepter ses émotions, les verbaliser, ça va pas aller face à l'homme viril qui doit protéger sa famille, qui doit la nourrir, qui... Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
On peut pas être un homme sensible et un homme fort. Moi, je pense alors, que bien ça, sûr que je pense que oui, mais
voilà. Non, mais justement, c'est super intéressant parce que je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de gens, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Mais justement, moi, il y a une question que je pose à chaque épisode, c'est une question sur les clichés. Alors, par rapport au sujet central, donc nous, on a parlé de marche thérapeutique. Enfin, tu m'as dit qu'on pouvait dire les deux. Mais du coup, ça peut être les clichés, les stéréotypes. Sur ce genre de choses. Et ce que je précise très souvent, c'est qu'il y a des choses qui doivent être démontées parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était faux. Et puis, il y a des choses qui sont des stéréotypes, mais qui méritent d'être là. Et si tout le monde le pense, c'est pas pour rien. Et sauf que souvent, c'est dur de faire la différence entre ce qu'on entend tout le temps et qui est vrai et ce qu'on entend tout le temps et ce qui est faux. Et je pense qu'il y a, je pense que suivant le sujet dont on parle, il y a des choses qui sont vraies, qui méritent d'être répétées encore une fois, et puis il y a des choses qu'au contraire il faut démonter. Et voilà. Et là, typiquement, là c'est un cliché, et je veux bien que tu me dises ce que t'en penses, comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui est un homme ou une femme d'ailleurs, hein, qui pense qu'on ne peut pas être, fort et sensible ou voilà, ce genre de choses.
Moi, je pense que c'est des choses qui se sont mises en place il y a des milliards d'années, qui étaient nécessaires certainement pour la survie, clairement, à l'époque. Nécessaires pour la survie. Ce sont des choses qui se sont transmises et qui, au fil du temps, on a pris le rôle qui nous était attribué de plus en plus, ça s'est assis, etc. Et alors qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que ça a toujours autant de sens? J'en sais rien. Et d'ailleurs, la société nous montre bien qu'on revient sur tout ça, parce que, à mon avis, ce qui avait du sens avant, quand il s'agissait de survivre, ça n'a plus de sens aujourd'hui, en fait.
Mmh. Ouais.
Donc, alors, après, il y a encore autre chose. Est-ce que ces rôles attribués avec ces fonctions qu'on a respectivement entre les hommes et les femmes n'ont pas fait que dans l'évolution de l'espèce, on n'a pas développé, du coup, nous, en réponse à ça, des capacités supérieures à celles des hommes, etc. Je ne sais pas. Là, il faudrait vraiment poser la question à quelqu'un qui fait de la recherche, mais c'est fortement possible que, du coup, oui, on peut dire que les femmes ont plus d'aptitudes à ressentir les émotions, à être relationnelles que les hommes. On peut peut-être le dire maintenant parce que peut-être que notre corps a évolué pour ça.
Mmh. Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à repérer, c'est pas toujours facile, hein, mais ce qui vient de la biologie et ce qui vient de l'éducation, de la société, tu vois. Il y a des choses qui sont très très difficiles à changer parce que c'est vraiment ancré en nous profondément. Et puis il y a des choses où on se dit bon bah en parlant, en faisant évoluer les mœurs, on va dire, ça peut changer. Alors après la question est-ce que ça doit, c'est un autre débat encore. Mais arriver à faire la différence entre les deux, c'est important. À quel point est-ce que tu penses que le fait de, comme tu dis, pouvoir accéder à ces émotions, à quel point est-ce que tu penses que c'est biologique, physiologique? Et à quel point est-ce que tu penses que c'est lié à notre éducation ou peut-être que naturellement, par rapport à ces enfants, on transmet pas la même chose à ces garçons et à ces filles, typiquement.
Oui, bah, je pense que tu as tout ce que tu dis, c'est là en fait. Hein. Je pense que oui, il y a une part de biologie. Je me dirais oui, qu'il y a certainement une part de biologie maintenant. Bah parce que c'est le darwinisme quelque part un peu, hein, je pense qu'il y a une part de biologie et puis bah après c'est la socialisation qu'on a, hein, nos parents, la société, nos amis, etc. qui font que plus ou moins on va rentrer dans ces schémas de genre parce qu'on a besoin de catégoriser, parce qu'on a besoin qu'une femme soit une femme, qu'on a besoin qu'un homme ait les critères d'un homme, etc. Et aujourd'hui, on en revient un peu, parce que oui, bon, bah, maintenant, on voit des personnes s'affirmer qui sont pas forcément en accord avec le genre qu'on leur a prédéterminé, et qui, voilà, on voit que les choses évoluent. Et du coup, moi, dans mes prises en charge, ouais, j'ai des hommes qui... Alors, j'ai plusieurs catégories d'hommes. J'ai des hommes qui vont venir parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le médecin qui leur a dit de venir. Alors, ils viennent, mais bon, ça leur fait pas plaisir. Donc, bon, je le vois tout de suite. Donc, je détends l'atmosphère et je vais à l'essentiel avec eux. J'essaye de, voilà, de pas les mettre en difficulté. Et des fois, j'arrive justement, du coup, à ce qu'ils reviennent me voir spontanément. Ça arrive, ça. Et j'ai des hommes qui sont OK avec ça, qui vont être carrément acteurs de leur accompagnement psycho. Et voilà, ouais. Je pense que c'est de plus en plus, mais disons qu'il y a 50 ans, ça devait être compliqué.
Ouais, ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Tu parles à des collègues qui sont soit retraités, soit en fin de carrière. Voilà, est-ce que ça t'arrive d'échanger du coup avec des gens nettement plus âgés que toi qui ont eu le même métier que toi et qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ça?
Ah ouais. Alors c'est pas forcément. Non. J'ai pas trop eu l'occasion d'échanger. Alors j'ai des collègues qui sont, et puis en plus c'est des collègues, enfin je te dis, psycho du travail, on est assez, d'une, on est assez rare, mais on est assez récent aussi quelque part.
Ah oui, d'accord.
On est assez récent. On est venu avec l'évolution du travail en fait, hein. Et les problématiques du travail. Donc ouais, on a peut-être, je sais pas, 20, 30 ans... 20-30 ans de présence, tandis que les psycho-cliniciens, là, sont là depuis bien plus longtemps. Non, j'ai pas trop eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Mais bon, je pense quand même que, on a de plus en plus d'hommes et de plus en plus d'hommes qui sont OK avec ça, quoi. Qui sont pas complexés, qui sont pas...
Ouais. Ouais, les gens et les hommes en particulier se rendent compte qu'ils peuvent... évoluer, qu'ils peuvent progresser, tu penses, plus qu'il y a quelques dizaines d'années, d'un point de vue global, hein. Et du coup ça peut passer par une psychothérapie ou par des choses comme ça.
Ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je pense qu'ils ont le sentiment qu'ils ont plus le droit et qu'ils seront moins jugés en venant. D'accord. Qu'ils seront moins perçus comme des hommes faibles. C'est vraiment ça, hein. Aller voir le psychologue, c'est je vais dans les clichés à fond, hein, mais c'est parce qu'on est peut-être fou. Donc déjà, même si t'es une femme, hein, faut y aller, faut franchir le cap. Si en plus, donc le professionnel que tu as en face, est très stéréotypé dans la pratique, ça va te renvoyer peut-être un peu plus encore. Je suis vraiment un gros problème, quoi. Hein.
Ah ouais.
On n'a pas envie de se dire qu'on a vraiment un gros problème. Enfin, on a envie de se dire que ça peut vite se résorber, tu vois.
Ouais.
Enfin, si tu vas voir un psy, c'est que tu as envie d'aller mieux. Si on te dit que tu as... Enfin, voilà. Mais bon, oui, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'autorisent à venir sans avoir peur d'être jugés.
Ouais. À quel point c'est différent d'aller voir un psy et d'aller voir un kiné, par exemple, dans la tête des gens? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, l'objectif de s'améliorer ou de réparer quelque chose qui semble abîmé chez nous est un peu le même, sauf que dans un cas, c'est visible, c'est physique, c'est mécanique. Dans l'autre cas, c'est psychologique, c'est interne, c'est invisible. Du coup, tu vois, c'est la question qui me vient là. Tu m'as parlé de kiné tout à l'heure là, qui intervenait dans l'entreprise, dans la startup, je crois, dont tu parlais. Et du coup, là, je me pose cette question là. À quel point est-ce que de chercher à progresser physiquement ou de chercher à progresser mentalement, enfin, je sais pas quel terme tu voudrais employer, c'est perçu d'une manière très différente ou au contraire, est-ce que c'est en train de se réduire cet écart?
Je pense que c'est en train de se réduire, mais je pense aussi, comme tu dis, que c'est perçu carrément différemment. Une maladie physique, c'est une maladie qui est visible, donc t'as peu de chances qu'on te dise que t'es fautif, que t'as pas...
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
Que t'as un vrai problème, quoi. Dans la maladie mentale, on a, et d'ailleurs pour les salariés, les agents qui me consultent et qui sont en arrêt de travail, c'est toujours très 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 compliqué parce qu'en fait ils ont pas de problème de santé physique, ils ont un problème de santé psychique, ils sont énormément dans la culpabilité souvent à se dire mais est-ce que c'est pas moi qui exagère, est-ce que j'abuse pas et qu'est-ce qu'on va penser de moi, et ils vont dire que je suis une feignante ou un feignant, que je prends la... Voilà. Donc oui, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et en général, les gens qui passent par là, par un burn-out ou une autre pathologie en lien avec le travail, bah du coup, ils développent une empathie vachement plus intéressante par rapport à aux autres collègues qui pourraient être dans cette situation. Enfin, faut un peu y passer pour le comprendre, parce que sinon, on est vite face à nos stéréotypes qui permettent de catégoriser les gens et de les mettre dans des cases et pour simplifier notre analyse du monde.
Eh oui. Eh ouais, parce que c'est vrai que c'est très complexe et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à simplifier ce qui mérite d'être simplifié. Et puis il y a d'autres choses, ça peut pas être simplifié parce que sinon tu perds toute la nuance, tu perds tout le sens. Donc je pense que c'est important de le préciser. Tu viens de dire un truc qui m'interroge. Le fait de se dire par rapport à un souci psychologique, on va dire, le fait de se dire t'es fautif. Et le fait de se demander, est-ce que tu as un vrai problème? Alors, déjà, je pense que c'est deux choses qui sont très légèrement différentes, mais je veux bien qu'on parle un petit peu de ça. Les gens qui se sentent mal psychologiquement, ils pensent plus que ça vient d'eux que quelqu'un qui s'est fait une entorse en jouant au basket?
Non, pas tout. Non, ça dépend. Il y en a qui sont bien. Mais bon, je vois beaucoup de gens qui, en arrêt de travail, enfin, le complexe du burn-out, c'est que c'est une souffrance psychique qui est là, qui part, qui revient, machin. Et tu te dis que ça va aller, que tu peux y arriver, etc. Et puis c'est pas fort, et puis c'est pas visible du coup. Donc du coup tu te dis ça va pas, mais en même temps ça se voit pas. Est-ce que moi-même, vu que les autres le voient pas, est-ce que moi-même j'ai vraiment un truc? En fait, on est perdu quand on sait plus où sont nos repères, parce que dans nos repères on est malade si on a un problème physique visible. Ouais. D'autant plus c'est plus intéressant quand c'est visible. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui persévèrent, qui se mettent dans le jus et qui finissent souvent en arrêt parce qu'ils ont chuté, parce que finalement, c'est ça qui est fort. J'en retrouve beaucoup qui s'arrêtent pour une chute en lien avec le burn-out. En fait, c'est un épuisement tellement psychique et physique énorme que ça provoque souvent des chutes.
Non, donc tu parles de vraies chutes, là, de tomber par terre.
De vraies chutes, des chutes anodines dans les escaliers, sur un trottoir. Et là, là, j'ai une bonne occasion de m'arrêter.
Ouais.
Mais c'est
ouais,
la, c'est dur, hein. c'est la société qui nous voilà, qui mais ça va de mieux en mieux, je dirais, on progresse.
Ouais. D'accord. Bon, c'est rassurant.
On progresse puis ta question initiale, c'était quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus voir facilement un kiné que...
Ouais, je te demandais ça. Oui, je te demandais la différence de ressenti entre le dire bon bah j'ai je boite, je vais voir un kiné, ça semble évident. Après, alors attends, ok, je viens de penser à un truc. Donc,
moi aussi,
je vais faire une toute petite tangente. À quel point est-ce que les généralistes recommandent plus facilement d'aller voir un kiné quand il y a un problème physique, moteur, de muscle, de tendon, d'articulation, qu'un psy quand il y a un problème psychologique lié au travail, par exemple, comme ce dont tu traites, ce que tu traites principalement ou pas forcément. Et ce qui se cache derrière, c'est à quel point est-ce que c'est plus facile pour un médecin généraliste, typiquement, de repérer ce qui va mal d'un point de vue musculaire, par exemple, que de repérer ce qui va mal d'un point de vue psychologique.
Ça, c'est chaque médecin, c'est différent vraiment entre chaque médecin. Je dirais que les médecins nouvelle génération sont plus enclins à ça, à m'orienter des patients. Okay. C'est vraiment propre à chaque médecin, ouais. Les médecins, je les aime beaucoup, je vais pas les... certains ont une approche assez utilitaire de ce que je fais. Parce que dans ma pratique en psychologie du travail, je vais souvent délivrer des comptes rendus qui vont permettre d'étayer un diagnostic ou même d'étayer la prise en charge qui va avoir lieu derrière. Donc ces comptes rendus, ce sont des documents qui peuvent intégrer les dossiers des médecins généralistes ou médecins du travail et qui peuvent aider à la prise de décision pour eux. Donc je suis souvent une psychologue utile pour le compte rendu et j'espère être aussi utile dans la psychothérapie. Mais parfois, je ne suis pas convaincue. Je pense que j'ai souvent des patients qui viennent parce que le médecin a besoin d'un compte rendu et que je puisse poser un diagnostic, enfin, un avis, quoi. Aide à la prise de décision face à un arrêt de travail, face à une inaptitude, par exemple, des choses comme ça.
Est-ce que ces gens-là qui viennent, alors je grossis le trait encore une fois, mais qui viennent pour la mauvaise raison, est-ce que de temps en temps, ils restent pas, ils reviennent pas te voir et finalement, tu vois, ils viennent avec un objectif très spécifique, très court-termiste, mais que d'être exposé à toi, on va dire, une première fois, est-ce que ça pas permettre, est-ce que c'est pas une porte d'entrée finalement, j'allais dire presque comme une autre?
Ouais, alors j'en ai pas mal qui viennent comme ça. Donc ils viennent, ils sont un peu poussés quoi. Ils viennent pas, ils savent qu'ils viennent, ils savent qu'ils vont récupérer quelque chose. Donc c'est donnant donnant quoi. Le truc c'est bizarre pour un psychologue d'avoir une relation comme ça. Et à la fois dans ma discipline, il y en a beaucoup de gens qui sont en arrêt de travail. Quand ils décrivent tout ce qui s'est passé pour eux, etc., l'environnement de travail, tu sais bien que c'est plus possible, clairement. Tu sais bien que c'est une situation de non-retour. À un moment donné, je sais que ça va servir à rien de se voir pendant 6 mois. Ce qui va les soulager, c'est de plus aller dans l'entreprise. C'est clair. Donc oui, je peux les voir pendant 6 mois et essayer de les faire retourner dans l'entreprise. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu es dans une situation de non-retour, ce qui va te soulager, c'est que ça soit fini et que tu partes. Donc là, oui, je vais faire un courrier. Et là, oui, je vais donner mon avis, etc., pour que on accède le plus vite à cette décision.
Ce courrier, le patient le voit?
Je le remets toujours en impropre du patient. Et c'est lui qui décide ou non s'il le remet au médecin ou pas.
Donc toi, ça t'arrive de dire à tes patients dans le cadre d'une psychothérapie liée au travail, il faut que vous partiez de l'entreprise.
Alors,
Peut-être pas avec ces termes-là,
il faut
mais voilà.
qu'on doit
Est-ce que
avoir
tu fais
une
passer ce genre de message?
on doit avoir une prudence dans les termes qu'on emploie. Parce que, d'une, on n'est pas médecin, on n'est pas décisionnaire. Et s'il y a une procédure qui part au prud'homme ou au tribunal administratif ou quoi, et que notre compte rendu, nos mots sont récupérés, si j'ai parlé comme si je détenais une vérité, je suis mal, hein. Donc, on utilise toujours le conditionnel. Il semblerait qu'il décrit que. Je parle toujours comme ça. Au vu de, il semblerait que ce ne soit pas possible de retourner sur son poste. Ça pourrait être un risque. Voilà, je prends toujours des mesures comme ça de sécurité parce que des fois les dossiers partent au prud'homme et puis voilà, ça peut être très litigieux.
Parce qu'effectivement, tu vois, moi, quand je pense psychothérapie, j'imagine un professionnel qui va aider, qui va guider son patient pour qu'il se pose certaines questions et qu'il trouve lui-même certaines réponses sans vraiment donner son avis ou, tu vois, de but en blanc. Et du coup, là, je me demandais si toi, peut-être, dans ce cadre-là particulier, tu vois, qui est lié au travail, tu n'étais pas un peu plus. Quand il y a des choses qui te semblaient évidentes et que tu maîtrises par rapport à ton recul, à ton expérience, à ton expérience d'une part et à ton recul par rapport au patient qui, lui, évidemment, c'est sa vie, il n'a pas le même recul que toi. Ouais, je me demandais à quel point est-ce que tu pouvais l'aider à sauter ce pas, quoi. Parce que c'est difficile de soit de démissionner, soit de. Enfin, je sais pas. Mais quand on se rend compte que, comme tu dis, dans certains cas, la solution évidente, c'est de plus être dans l'entreprise. Voilà. Je me demandais comment ça se passait, en fait. Et ce que tu dis, c'est que bah, tu dois faire preuve de... Comment dire je trouve pas le mot que je cherche exactement, mais...
Enfin, faut que je nuance, quoi. Je peux pas. Parce que bon, j'ai une personne en face de moi. Elle me dit, elle, c'est son prisme. Hein. Moi, j'y étais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est son prisme déjà. Donc, déjà à partir de là, pour tout le monde, c'est du déclaratif. Donc, je prends ce qu'on me dit. Mais pour moi, je sais même pas si c'est pas forcément une vérité. Enfin, tu vois, quand on est dans l'émotion et qu'on vit des choses, moi, j'ai pas les deux parties en fait. J'ai pas les deux parties, j'ai pas le contexte, j'ai rien de tout ça. Donc, en tout cas, je sais que la personne, elle est mal puisqu'elle vient me voir. Ça, c'est une vérité.
Et oui.
C'est ma seule vérité.
C'est
ma seule vérité.
C'est ça. C'est que, en gros, ce que je vais essayer de redire un petit peu ce que tu dis avec mes mots pour voir si on se comprend. Tu ne sais pas si l'employeur ou le patron ou le chef direct de la personne. Fait mal son boulot ou harcèle ou bon peu importe, mais ce dont tu es sûr, c'est que la personne, elle est mal.
Voilà.
Et ça peut suffire pour dire bon, dans ce contexte là, dans ce contexte émotionnel là, il faut aller ailleurs. Et peu importe si c'est la faute entre guillemets, hein, la faute de la personne qui vient de voir ou si c'est la faute de sa hiérarchie, ou tu vois ce que je veux dire.
Alors,
c'est pas forcément un jugement si.
Alors, il faut quand même que j'ai quand même notion de des problématiques un peu, enfin, avec précision, parce que parfois, dans ce cas, c'est un peu plus complexe, mais le médecin du travail, selon les problématiques, peut proposer un poste dans un autre service ou de telle manière ou de telle manière. On peut quand même parfois trouver des solutions. Voilà, donc moi, j'ai quand même toutes ces... Je dois avoir... connaissance des problématiques un peu précisément quand même, parce que la réaction de survie hein, de tout le monde, c'est quand ça va pas, je veux fuir, j'en peux plus. Je veux aller mieux, quoi, je veux du répit. Ouais. Et parfois on sait que l'émotion, ça monte, ça redescend, et on peut des fois, quand ça va un peu mieux, trouver des réaccéder hein, à son raisonnement, à sa pensée sa pensée plutôt sereine, et trouver d'autres solutions. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, voilà.
Oui, alors, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas forcément un coup de tête. Ça doit pas se faire les choses
non.
Sur un coup de tête. Mais effectivement, qui peut quand même y avoir quelques. Quel que soit le fautif. Je pense qu'il faut nuancer ce terme-là, mais bon,
soit le problème, c'est ça peut évoluer. Voilà, on est une personne qui est mal, qui est en souffrance, elle a des émotions. Il faut déjà travailler sur les émotions pour qu'on puisse réaccéder à une discussion sur le travail. Et okay. Si c'est toujours dans la même lignée, si c'est toujours je me sens pas, j'essaie d'y réfléchir et qu'on sent que la personne elle est ok avec ses émotions, qu'elle a réussi à les réguler, bon bah là on se dit bon là il y a quelque chose de plus profond et c'est possiblement une situation de non-retour, quoi.
Bah, c'est très clair. Bien. Bon, on a parlé de pas mal de choses. Je vais te reposer des questions, les questions un peu fil rouge, les principes fondamentaux qui portent sur notre sujet central. Donc notre sujet central, c'était là on a parlé de psychologie dans le cadre du travail, mais on a d'abord parlé de la marche psychothérapeutique. Et donc j'aimerais savoir, donc tu as déjà répondu à plein de questions, mais j'aimerais savoir ce qu'ont tendance à penser les gens qui n'y connaissent rien, première fois qu'ils entendent parler de ça, de psychothérapie en marchant, qu'est-ce qui leur vient? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que tu dois convaincre?
C'est tout le temps hyper positif. C'est mais c'est trop bien. C'est tout le temps hyper positif.
Les gens se disent pas ah mais on a le droit de faire ça?
Non.
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 Non, mais tu vois, ça peut être genre, j'y avais jamais pensé. Je pensais que c'était obligatoirement qu'il fallait faire ça dans un cabinet parce que ça marchait pas dans un autre contexte.
Non, les gens me disent tous c'est trop bien. J'ai des retours positifs.
Bon.
Donc, franchement, c'est bien. Après, c'est difficile, c'est pas simple parce que, si tu veux, moi, je peux pas faire 3 marches d'affilée non plus. Donc,
tu peux pas parce que tu serais trop fatiguée au bout d'un
moment? Oui, voilà.
D'accord.
Je serais trop fatiguée, okay. Parce que ça me prend quand même moi, j'ai une obligation de concentration. Et puis du coup, j'ai le même impact physique. Hein. Donc, j'arrive à en enchaîner deux.
Bon, le même, non. Toi, t'es plus forte physiquement que la plupart des gens. Donc.
Oui. Donc voilà, j'ai une fatigue. Je ne peux pas enchaîner 3 consultations comme au cabinet, j'en enchaîne 3. Donc ouais, financièrement, ça a un petit impact.
D'accord. Bon.
Mais bon, ça me plaît, donc j'y vais à fond.
Eh ouais. Non, mais en plus, je comprends que ça te plaise. Enfin, tu vois, toi qui aimes le sport, toi qui aimes bouger en général, toi qui aimes l'extérieur aussi, j'ai l'impression que t'as un peu le beurre et l'argent du beurre quand tu fais ça.
C'est ce que me dit mon beau-père. Il me dit, alors, t'as été marcher du genre, je vais marcher pour moi, quoi. Alors je lui dis non, j'allie le plaisir et le travail.
Ouais. Bah ouais, non mais complètement. Et je trouve que ça fait complètement sens. Et tu ferais ça que pour toi. Bon, on pourrait se dire voilà, mais ce qui semble ressortir, c'est que ça apporte vraiment un bénéfice à tes patients aussi. Et donc moi je trouve ça génial. Quand le gagnant gagnant gagnant, moi je trouve que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Et là j'ai l'impression que c'est un exemple.
Ouais, c'est ça. Carrément.
Donc je suis content qu'on, toi, tu, voilà, je suis très content qu'on en parle, que ce soit un sujet central de Principes Fondamentaux, parce que je pense que c'est quelque chose de très positif d'après ce que tu m'as décrit, et j'espère qu'il y aura des gens qui auront écouté ça, que ça va inspirer, qui pourront venir faire ça avec toi, ou s'ils sont ailleurs, qui pourront faire ça avec quelqu'un d'autre, parce que moi ça me parle vraiment à tous les niveaux.
Bah peut-être que toi tu voilà quand j'expliquais le fait que ça pouvait stimuler la pensée, la résolution de problèmes, tu l'as peut-être toi aussi expérimenté toi-même dans tes marches.
Ouais, clairement. Ouais, on en parlait là il y a quelques jours. Moi c'est le cas, c'est quand je sors marcher que j'ai le plus d'idées. L'autre jour, Lorraine, encore, hein, parce que c'est un épisode récent, donc je me rappelle de plusieurs trucs qu'elle m'a dit. Elle me disait, ouais, souvent on a nos meilleures idées sous la douche. Bon, moi j'ai dit, bah, c'est pas vraiment sous la douche, moi c'est plus, surtout ces derniers temps, parce que je prends des douches froides. Du coup, d'une part, je reste pas très très longtemps dessous, et en plus, je suis comme ça, et donc je pense que mon cerveau, il a pas trop la place pour s'exprimer. Mais moi, c'est vraiment quand je sors marcher, et souvent, je sors marcher avec un podcast ou avec un livre audio. Mais de temps en temps aussi, je sors marcher sans rien, ou alors je fais une pause. Je fais une pause parce que ce que j'ai écouté, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Et là, je vois que le cerveau, il tourne à plein régime. Alors pour moi, c'est peut-être pas un régime de fou quand même, mais à plein régime par rapport à d'habitude. Et donc, c'est aussi pour ça que ça me parle, effectivement, ce que tu racontes. Mais je me demande si... je me demande, voilà, s'il y a des gens qui écoutent et qui nous écoutent jusque-là et qui peuvent laisser un commentaire. Donc, si vous êtes sur YouTube, c'est facile de laisser des commentaires. Ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Je veux bien savoir si vous êtes déjà adepte de la marche et si du coup la pratique de Fanny ça vous parlerait, ou si vous êtes pas forcément, vous sortez pas forcément énormément, mais quand même vous dites ah ouais, je comprends les intérêts, j'aimerais bien avoir des retours sur ce sujet là. Du coup, à l'opposé des clichés, qu'est-ce qui est de quoi est-ce que tu es sûr quand tu penses à cette pratique de marche psychothérapeutique?
À l'opposé des clichés, la relation de proximité avec le patient.
Ouais. Tu te trouves plus proche quand tu es en train de marcher avec ton patient, et tu penses que le vice-versa aussi, que quand vous êtes tous les deux dans votre fauteuil?
Bah déjà, on est côte à côte. Quand je te parlais des barrières, en fait, hein, les barrières du patient tombent très très vite, très facilement dès qu'on démarre la marche. D'une part, la décharge physique, et de deux aussi parce qu'il nous entoure, en fait. Puis moi, je vais pouvoir générer une alliance très rapidement parce que je vais amener la personne à regarder quelque chose dans le paysage, etc. Enfin, on va trouver autre chose qui et puis on va se connecter plus rapidement.
Ouais.
Donc voilà, la proximité pour moi c'est un fondamental pour l'alliance thérapeutique, pour faire une bonne alliance thérapeutique et pour pouvoir bien bosser. Et après, il y a tout ce qui est stimulation de la pensée. On va de l'avant, mais c'est que de la symbolique. Côte à côte, on va de l'avant, on marche, on avance, tout. Mais j'en suis convaincue.
Ouais, la posture est plus la même. Tu sembles, et ça revient encore à ce que tu as dit au tout début, tu sembles plus être au-dessus de la personne. Alors même si, bon, ça se voit pas, mais tu es très grande, donc peut-être que tu es quand même au-dessus de la personne physiquement de temps en temps, mais ça, tu peux pas y échapper. Quoique assis, ça se voit peut-être moins. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, ça change, ouais, le fait d'être côte à côte, le fait si vous êtes dans une montée, vous en bavez un petit peu plus tous les deux ensemble. vous êtes plus un peu comme des pairs, un peu comme des pairs, plus qu'avec un sachant, quelqu'un qui.
Mais voilà, ouais, c'est ça. C'est ce dont j'ai beaucoup de difficultés, c'est le psychologue sachant.
Et ouais.
Par rapport.
C'est vraiment pas.
Voilà.
Ouais, c'est vraiment passionnant. Tous ces éléments là qui ressortent, je trouve que ça appuie encore plus ton propos. Super. Est-ce qu'il y a, alors normalement je demande si les gens ont des ressources si les invités ont des ressources à conseiller par rapport à ça. Donc je sais pas, t'as vu passer des bouquins sur le sujet, t'as vu passer des publications scientifiques. Alors des fois c'est pas forcément accessible à tout le monde.
Ah bah oui.
Qu'est-ce que tu vas recommander?
Non, voilà, je te ferai passer quelque chose parce que là, j'avais
ça me va très bien aussi.
Voilà, on fera ça. J'essaierai de faire passer quelque chose. Mais oui, j'avais fait. Enfin, j'ai fait des recherches sans non plus trop en faire parce que c'est quelque chose dont je suis. J'étais convaincue depuis longtemps, quoi.
Ouais. Donc, ce que tu voudras transmettre, tu me l'enverras, je le mettrai dans les notes d'épisode qui sont retrouvées sur YouTube, dans la description, et normalement sur la plupart des plateformes de podcast en dessous du lecteur, vous devriez retrouver, et enfin sur mon site web, alexandrepenaud.fr. Et donc, voilà, tu pourras me partager ce que tu as envie de partager, en fait, comme lien, comme ressource, tu vois, ce genre de choses.
Ça marche.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi personnellement ou pour nous et que ça t'aide indirectement, peut-être que si les Français en général ou le monde entier encore mieux étaient mieux psychologiquement, évidemment ça aurait un impact positif sur beaucoup de monde et notamment sur toi, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus personnel par rapport à toi. Il y a des gens qui me disent moi je veux qu'ils aillent voir mon contenu ou qu'ils s'abonnent à un truc ou qui pratiquent quelque chose d'une certaine manière, quel serait ton appel à l'action pour les gens qui t'auront écouté aujourd'hui?
Bon, moi, ce qui me vient, c'est de me dire, outre la marche psychothérapeutique, c'est tout bête, mais c'est d'aller marcher ne serait-ce qu'une fois, une fois par semaine, une heure et demie. Et alors voilà, j'évoquais le fait qu'il y avait plusieurs type de façon de marcher. Il y avait marcher en famille, marcher entre amis, marcher avec un animal. Je l'ai pas évoqué ça. Marcher seul avec un animal, ça c'est si vous avez un chien, si vous avez un animal à promener, c'est ce qu'il y a de mieux clairement, parce que l'animal va amener autre chose encore, qui va encore potentialiser tout ça. Ça, on n'avait pas évoqué, hein, mais la
non,
relation...
Non, vas-y, on a le temps, explique-moi un petit peu par rapport à ça.
Alors, pour gérer ses émotions, moi, si tu veux, j'ai structuré un petit peu, j'ai un modèle, hein, pour gérer ses émotions, on va avoir tout ce qui va être la verbalisation, etc., l'écriture, on va avoir ce qui va être la relaxation, où on va respirer, faire de la cohérence cardiaque, on va faire de la méditation, voilà. On va avoir ce qui est de l'ordre tout ce qui est créatif, donc de l'expression de ses émotions au travers de la cuisine, du bricolage, de la musique, etc. Et on va avoir ce qui est de l'ordre de l'activité physique, donc le sport pour gérer ses émotions, ou l'activité physique, la marche, ou l'activité sportive en club de manière un peu plus poussée. Et puis les animaux, la relation aux animaux. Alors, D'un point de vue scientifique, je serais en difficulté pour te... Voilà, mais ça vient un petit peu comme la relation entre dans le couple avec une personne qu'on aime, ça vient libérer ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, l'ocytocine, qui nous amène un sentiment de bien-être. Et l'animal étant souvent très fidèle, etc., c'est tout bénef, quoi. Donc c'est une vraie stratégie de gestion des émotions que d'avoir un animal et une relation un peu privilégiée avec cet animal. Caresser un chat, aller promener son chien, ça vient potentialiser l'effet de l'activité physique.
Ouais, d'accord. Y a un terme que j'ai envie de ressortir parce que j'y repense, c'était Alice comment dire? Eh ben c'est, j'ai pu retrouver, enfin bon, éducatrice canine.
Ah voilà. Oui.
J'ai enfin retrouvé le terme. Qui me parlait, je suis quasiment sûr hein, que c'était elle qui m'en parlait, donc sur Principes fondamentaux, qui me parlait de la biophilie. La biophilie, c'est le fait d'aimer la nature et du coup de se sentir bien en forêt, comme on a parlé tout à l'heure, et évidemment de se sentir bien quand on est avec des animaux mignons, gentils. Voilà, effectivement, si tu es au milieu des requins, peut-être que tu ressens moins ces bienfaits. Mais voilà, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient aussi dans ton discours par rapport à la nature. Et là, maintenant, par rapport aux animaux, c'est quelque chose. C'est un terme que tu avais déjà entendu, ce terme de biophilie?
Non.
Ouais, bah voilà, moi, je l'ai découvert grâce à Principes fondamentaux il y a quelques temps. Et voilà, donc je voulais juste le souligner parce que, tu vois, comme le parallèle vis-à-vis de ce que m'a raconté Lorraine il y a quelques épisodes, la biophilie d'Alice, ça revient aussi dans ton discours et je pense aussi que c'est quelque chose d'assez important, d'assez fondamental pour nous. Et voilà, donc merci d'avoir précisé encore cet aspect par rapport à aller marcher avec un...
Bah voilà,
avec
moi
chien,
ce que
typiquement.
Je dirais pour le mot de la fin, c'est aller marcher seul avec votre chien en forêt. Au moins bah alors, une fois par semaine.
Ok, je vais te le demander exactement, ton mot de la fin. Donc on verra si c'est ça qui va ressortir. J'ai encore deux petites questions très, très pratico-pratiques.
Ah,
comment est-ce qu'on te contacte et dans quel cadre? Donc bon, il y a un truc évident, c'est si on veut être suivi par toi. Voilà, comment est-ce que... Est-ce que c'est que directement pour être suivi et donc on appelle le cabinet, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans le cadre d'une entreprise? Et est-ce que sinon tu publies des choses ou est-ce que tu veux être suivi quelque part? Voilà, comment est-ce qu'on te contacte et pourquoi?
Alors, il y a deux axes pour me contacter. Il y a si vous êtes au sein d'une entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez une intervention sur la santé au travail, sur un audit ou former des représentants du personnel sur les risques psychosociaux ou mettre en place des démarches de prévention avec une kiné, une psychologue pour prévenir la santé au travail. Là, on a un site internet qui s'appelle http://catalyst.fr.
Catalyst. Ok, pareil, ça on mettra dans les notes d'épisode, vous aurez juste à cliquer
d'accord.
Si c'est un peu compliqué, mais tu fais bien des plaies, on sait jamais.
C'est le nom de notre cabinet, c'est le cabinet Catalyst, on est situé à Rouen, et puis voilà, je suis avec Andréina qui est ergonome. Donc ça c'est pour le volet entreprise, et pour le volet plutôt psychologie du travail individuel, j'ai mon numéro de téléphone que je te ferai passer Alexandre, et là, l'idée c'est si vous êtes en souffrance au travail, toute raison, je vous reçois sans problème. Si vous voulez aller faire cette consultation en marchant, il n'y aura pas de problème. Et aussi, je réalise la thérapie EMDR, donc pour tout ce qui est prise en charge du psychotraumatisme, que ce soit au travail ou perso. J'ouvre au perso, ouais.
D'accord. Je pense que je connais déjà ta réponse, mais je vais quand même la poser au cas où. Tu sais, tu dois te douter que Principes fondamentaux, c'est pas écouté principalement à Rouen, c'est potentiellement écouté un peu partout dans la francophonie. Est-ce que tu fais aussi de la visio?
C'est quelque chose que j'aimerais bien développer, ouais.
D'accord.
Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait. J'en fais en fait déjà quelques-unes, mais c'est tout à fait possible. Ouais.
D'accord. Donc voilà, même si vous n'êtes pas de Rouen, donc ça sera plus dur de marcher ensemble, quoi, qu'on peut peut-être marcher avec en visio.
On avait dit non, ça. Pas de téléphone.
Non, mais voilà, blague à part, donc il y aura des choses qui seront pas possibles dans ce cadre-là, mais si les spécialités dont tu as parlé parlent à des gens qui vivent loin de chez toi, ça vaut quand même le coup d'essayer de te contacter, voir s'il y a des choses à faire en visio. Par rapport à tes sensibilités, par rapport à, tu vois, s'ils ont aimé qui tu es, comment tu t'exprimes, ton énergie et ton originalité, ça peut valoir le coup, même si vous n'êtes pas dans la Loire, de contacter Fanny.
Ouais, pas de problème.
Bon. Bien, allez, c'est maintenant la question finale de Principes Fondamentaux. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent après avoir écouté cet épisode ? Donc, essaye de nous le dire la manière la plus condensée possible pour finir sur un moment fort.
Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vraiment personnel. Je ne pensais pas que l'activité physique allait autant changer ma vie, ma pratique professionnelle et ma vie personnelle. Parce que je n'étais pas du tout, j'étais pas non plus une très grande sportive, etc. Et c'est vraiment quelque chose, maintenant, c'est quelque chose vraiment en lequel je crois. C'est presque devenu une religion, quoi. Donc vraiment, ouvrez-vous, persistez un peu, parce qu'au début, c'est jamais très facile de se dire « Allez, j'y retourne », etc. Et au bout d'un moment, vous allez être dans une routine qui va, vous pourrez plus vous en passer et vous allez avoir plein d'autres effets positifs outre que physiques qui vont être psychologiques et ça c'est, j'en suis convaincue, c'est une vérité pour moi. Ça remplace tout traitement médicamenteux, j'en suis persuadée. Donc allez marcher.
Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenaud.fr/podcast. C'est Alexandre, PENOT.fr/podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. À bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.